Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle sur Radio Courtoisie, naturellement. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée. Oh, elle est préenregistrée 2 ou 3 jours avant sa diffusion, mais je tiens quand même à le signaler à l'attention de nos auditeurs, tous ceux qui voudraient bien sûr, abonnés sans je n'en doute point, se manifester pour réagir aux propos de mon invité du jour. Alors justement, concernant mon invité du jour, il se trouve que c'est un habitué que j'ai toujours le plaisir d'accueillir dans ce studio, dans ce nouveau studio d'ailleurs, le studio numéro 2, que j'inaugure en tout cas en ce qui me concerne aujourd'hui. Et mon invité du jour n'est autre que Jaroslav Lebedinsky. Jaroslav Lebedinsky, dobry deń, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, alors je me permets de rappeler pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas déjà, ceux qui prendraient l'émission en cours, ou qui ne seraient pas des auditeurs réguliers depuis quelque temps, que vous êtes historien, que vous êtes un spécialiste reconnu dans l'espace francophone des cultures guerrières des steppes et du Caucase, auxquelles vous avez consacré de très nombreux travaux, publiés chez plusieurs éditeurs, dont Errance et L'Harmattan. Mais vous enseignez également l'histoire de l'Ukraine à l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales, la fameuse INALCO, les langues eaux, et vous avez d'ailleurs consacré à l'Ukraine plusieurs ouvrages, notamment dans le cadre de la collection Présence ukrainienne chez L'Harmattan. Et il y a quelques mois, vous nous avez gratifié, et c'est toujours une occasion que j'ai de vous recevoir, d'un petit dernier intitulé « Sur l'Ukraine, conférence et intervention 1999 » 2025. Quelques mots sur la genèse de cet ouvrage, mon cher Jaroslav.
Oui, ce n'est pas l'art d'accommoder les restes. C'est une réponse aux besoins croissants que je ressens de la part du public français d'information et de compréhension dans le cadre, bien sûr, de cette guerre commencée en 2014 et assez paroxystique depuis 2022. Il se trouve que j'ai décidé, depuis le début du conflit, de ne pas écrire sur la guerre. Il y a d'excellents spécialistes pour le faire. Il y a des géopoliticiens, il y a des experts militaires. En revanche, je peux apporter des réponses à un certain nombre de questions touchant aux racines profondes de ce conflit, à ses causes les plus lointaines. Et comme j'interviens par voie de conférences, d'interviews, de réponses à différentes demandes depuis des décennies sur les thèmes qui excitent particulièrement la curiosité du public français de tout niveau, public général, public spécialisé, etc., je me suis dit qu'il ne serait pas inintéressant de rassembler ces contributions inédites et de les mettre à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à l'Ukraine.
Voilà, surtout que les plus fidèles auditeurs le savent bien. Moi-même, je m'intéresse personnellement à la question ukrainienne depuis très longtemps, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et surtout, dans le cadre de ce conflit généralisé qui s'est déclenché en février 2022, mais qui a commencé au printemps 2014, et puis on pourrait remonter bien au-delà, je m'efforce de montrer que cette guerre ne peut pas être appréhendée dans ses fondements, dans son étiologie, dans ses origines, uniquement sur d'un point de vue géopolitique, sous un prisme qui parfois peut paraître réducteur, et qu'on va essayer une fois de plus de le mettre en avant aujourd'hui avec vous, Jaroslav. Les racines profondes de ce conflit, elles sont avant tout identitaires, civilisationnelles et mémorielles, d'une manière. Et nous pouvons prendre comme point de départ de notre propos d'aujourd'hui, de notre échange, la fameuse lettre que Vladimir Poutine avait publiée un an avant le déclenchement donc, de cette invasion généralisée, donc en janvier, non c'était pas en janvier d'ailleurs, c'était en juillet 2021.
Juillet 2021.
Voilà, le 12 juillet 2021, donc une lettre publiée en 3 langues, en russe, en ukrainien et en anglais, et un très long article en fait, dans lequel Vladimir Poutine s'érige en tant qu'historien, un article intitulé « De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Déjà dans le titre, une bonne partie du propos était résumée. Pouvez-vous revenir un petit peu sur cette lettre justement, Jaroslav, et notamment le narratif qui a été déployé dans ce texte par Vladimir Poutine?
Donc c'est une lettre ouverte dans laquelle Vladimir Poutine ou les gens qui écrivent sous son nom donnent une interprétation de l'histoire de l'Ukraine qui n'est pas l'interprétation poutinienne, qui est l'interprétation russe, puisque l'on retrouve les arguments, les schémas de pensée, les éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui, russes, utilisés pour certains depuis plusieurs siècles, depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et ce sont des thèmes qui ont traversé la période impériale, la période soviétique et maintenant la période post-soviétique. Donc Poutine déroule à sa façon l'histoire de l'Ukraine depuis ses origines jusqu'à nos jours pour prouver qu'il n'y a pas d'identité ukrainienne autre que locale, que l'identité ukrainienne est une partie de l'identité russe, que les Ukrainiens sont des Russes, que la langue ukrainienne est une parlée du russe au sens large, et que les velléités indépendantistes anciennes et actuelles de l'Ukraine relèvent pour partie d'une erreur, l'erreur de quelques intellectuels égarés, et pour partie, une grande partie selon lui, de manipulation d'États étrangers qui ont toujours voulu nuire à la Russie. La Russie, comme chacun le sait, dans sa propre conception, est entourée d'ennemis. Et après les Polonais, les Autrichiens, les Allemands, aujourd'hui les Américains, l'Occident global travaille à la destruction de la Russie à travers l'Ukraine.
Voilà ce fameux complexe obsidional qui fait partie des représentations très fortement ancrées.
Oui, et chez les où l'Ukraine joue un rôle très important puisque Poutine, dans ce texte, la qualifie de projet anti-russe. L'Ukraine a été créée pour nuire à la Russie.
Voilà, et vous dites d'ailleurs que, dans une formule que je trouve assez percutante, assez pertinente, que l'identité russe se bâtit sur la négation de l'identité ukrainienne, en tout cas en partie sur la négation de l'identité ukrainienne.
En grande partie, c'est l'un des éléments fondamentaux de l'identité russe, parce que la Russie ne se conçoit que comme un empire, il n'y a pas d'identité nationale russe,
voilà,
il y a une identité impériale, une identité étatique, et que l'Ukraine en est devenue, de l'avis de beaucoup de Russes, et pas seulement de l'élite dirigeante, un élément indispensable.
Alors, je crois qu'il serait intéressant de dérouler un petit peu les différents postulats que Poutine a énoncés dans cette lettre, dans ce texte, en tout cas, qu'il a signé, et qui convient peut-être de remettre à l'heure, de remettre à l'endroit.
Alors bien sûr, il faut lire aussi ce texte dans son contexte, puisqu'il a été publié quelques mois avant une attaque russe qui était bien entendu programmée de longue date, et dans le cadre d'une guerre qui dure, nous l'avons déjà dit deux fois, depuis 2014. C'est donc en fait un programme, autant qu'un retour sur l'histoire ukrainienne.
Voilà, et qui d'ailleurs a vu plusieurs versions hein, qui ont été aussi énoncées au cours de discours, d'allocutions. Le jour même d'ailleurs de l'invasion, il revient un petit peu, il fait un rappel hein, des principaux points qui ont été justement notifiés dans cette lettre de juillet de 2021.
Oui, et ces propagandistes, ils reviennent sans cesse. Et ce qui est assez frappant et assez inquiétant, c'est qu'on observe en fait une agressivité croissante du discours russe sur ces thèmes historiques, culturels, politiques. C'est même pas depuis 2014, en fait, depuis 2008 et depuis le moment où Poutine a pris ce tournant anti-ukrainien ouvert. Donc au début, le discours consistait à dire « nous sommes des peuples frères, nous ne pouvons qu'avancer unis vers un avenir radieux, donc Ukraine et Russie doivent être coordonnées ». Ensuite, on a eu l'épisode de 2014 avec cette prédation un peu opportuniste sur la Crimée et ce soutien au prétendu séparatisme dans les régions orientales de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on est dans une guerre qui est quasiment une guerre d'anéantissement, et en tout cas d'anéantissement de l'identité ukrainienne partout où les Russes occupent le terrain.
Voilà, moi c'est vrai que personnellement, j'ai toujours des scrupules à employer le qualificatif de génocidaire. Je crois que bon, voilà, il faut être réservé concernant l'emploi de ce concept hein, qui a été dicté après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je finis par me faire à l'idée qu'il y a une volonté génocidaire au sens strict du terme. Bon, j'avais parfois l'habitude d'employer aussi le terme d'ethnocidaire, mais en fait, on rejoint pratiquement. C'est ça qui est frappant, comme vous le dites, dans les différentes déclarations qu'on peut voir dans différents cadres, que ce soit bon, les propagandistes qui se laissent aller sur les talk shows, pardonnez-moi l'anglicisme, qu'on peut voir sur les chaînes russes, ou même dans des déclarations plus officielles ou dans toutes les sphères intellectuelles qui gravitent autour du pouvoir et autour du Kremlin.
Je partage entièrement votre avis sur l'usage du concept de génocide. Ça n'est pas quelque chose dont il faut abuser à la légère. Néanmoins, j'en parlais à mes étudiants à l'INALCO la semaine dernière. Si l'on regarde la définition juridique du génocide, celui de l'Organisation des Nations Unies, on s'en approche.
Et voilà, c'est ça qui
approche dans certains comportements russes.
On se rappelle aussi de ce texte de Timofeyev qui avait été publié dans les quelques semaines qui suivaient l'attaque généralisée donc en février 2022, où là carrément il y avait une volonté de type génocidaire qui était clairement affirmée, qui était
d'ailleurs
retirée assez rapidement.
Et il y a une excellente analyse de François Stom sur un article publié par Sergueï Tsev, qui est l'un des sbires de Poutine, si j'ose dire.
Voilà,
l'un des membres de l'entourage. Que faire avec l'Ukraine? Et supprimer les Ukrainiens. C'est ce qui ressort de ce texte. Et c'est un texte qui a été diffusé sur les ondes russes. Enfin, je veux dire, qui est tout à fait officiel. C'est là aussi une espèce de programme qui passe par l'extermination des élites ukrainiennes et la russification de ce qui restera.
Alors, à la base, on en revient toujours à ce qui a perduré jusqu'à très récemment et qui encore montre ses effets, c'est-à-dire une sorte d'hégémonie d'un schéma historiographique russe sur l'Ukraine et l'autre peuple slave oriental que sont les Bélarussiens, donc qui a persisté pendant très longtemps, en France en particulier et en Occident en général. Donc on pourrait revenir d'abord sur l'existence d'une histoire ukrainienne, d'un schéma historique ukrainienne propre, qui montre une singularité au sein de ce groupe slave oriental.
C'est toute la question. Y a-t-il une histoire de l'Ukraine ? Y a-t-il un schéma cohérent qui conduit des origines, quelles origines, quelles dates, à l'Ukraine actuelle ? En fait, l'histoire s'écrit toujours rétrospectivement. C'est bien sûr parce qu'il y a aujourd'hui une identité ukrainienne, quel que soit le niveau et la force qu'on lui reconnaît, qu'on en cherche les origines. Et donc, on remonte le temps pour expliquer comment elle s'est constituée, à partir de quels éléments et à travers quels événements. Les Ukrainiens ont fait ce travail au fil des siècles, bien entendu, et ont abouti à un schéma historique, un roman national, pourrait-on dire, et qui est bien entendu très différent de celui des Russes. Ce que voient les Russes dans l'histoire des Slaves orientaux, c'est une unité fondamentale, que contestent les Ukrainiens. C'est ensuite une division malheureuse, qui pour les Ukrainiens répond à une espèce de loi naturelle, puisqu'il n'y avait pas d'unité au départ. Et toujours dans le schéma russe, une réunification effectuée par Moscou, puis Saint-Pétersbourg, qui pour les Ukrainiens correspond à une occupation, à une domination étrangère, et ensuite à une tentative de destruction. Donc point par point, période par période, les schémas s'opposent, lecture de l'histoire s'oppose. Le problème ukrainien, c'est bien entendu que dans le cadre d'une histoire où l'État ukrainien a rarement existé sous une forme autonome ou indépendante, ce qui était enseigné dans les écoles, les lycées, les universités, reflétait le schéma russe. C'est l'un des éléments, bien sûr, de la russification culturelle que l'Ukraine a subie. Et l'autre problème, c'est que ces schémas étaient diffusés à l'étranger par la Russie. Ils l'ont été à l'époque de l'Alliance franco-russe, ils l'ont été à l'époque du marxisme triomphant dans les universités françaises, en version soviétique, et ils ont conservé aujourd'hui une certaine force, même si je la vois avec plaisir déclinée.
C'est vrai qu'en plus, il y a une particularité qui est liée à la situation française, c'est-à-dire une forme de préjugé qui veut qu'un pays, enfin un peuple, qui n'ait pas bénéficié d'une construction étatique ancienne ou durable, n'existe pas vraiment, quoi. C'est un point commun, d'ailleurs, qu'il partage avec la Russie.
Je pense que c'est le propre de pays qui ont des traditions étatiques très anciennes et qui voient en effet l'histoire comme une histoire d'État. Les acteurs sont les États beaucoup plus que les peuples. Les Français ont fait des exceptions. Ils en ont fait, par exemple, à l'égard de la Pologne. Ils en ont fait en faveur de l'Irlande. C'était souvent, bien sûr, conjoncturelle, mais c'est vrai que les Ukrainiens, les Baltes, les Biélorussiens, les Caucasiens, tous ces peuples qu'on connaît mal, ont été longtemps considérés comme des Russes.
Il y a une formule que j'aimais bien, que vous aviez d'ailleurs proposée dans votre principal ouvrage consacré à l'Ukraine, l'Ukraine, une histoire en question, question au pluriel, toujours paru chez l'Harmattan dans la collection présidence ukrainienne, où vous définissiez l'histoire de l'Ukraine comme l'histoire d'une identité enracinée durablement sur un territoire. Et en fin de compte, on retrouve un petit peu la conception à la fois germanique et slave hein, de l'existence d'une ethnie consciente d'elle-même qui, plus tard, va accoucher plus ou moins tôt, de manière plus ou moins solide et durable, d'un État, oui. Sur le modèle allemand notamment.
Oui. Ça s'est passé en trois temps. C'est l'histoire au départ d'une ethnie. Alors, c'est une histoire très complexe sur laquelle on reviendra peut-être, mais c'est une ethnie qui s'est formée au fil des siècles, comme beaucoup d'autres. Ensuite, c'est l'histoire d'une nation, avec une prise de conscience qui s'est faite à peu près au même moment que d'autres populations européennes. C'est essentiellement entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle que s'est cristallisé cette conscience nationale.
Oui, avec le romantisme, le mot romantique, le printemps des peuples.
Le culte de la langue, ouais. Tout ça, tout ce qu'on connaît bien ailleurs. Et dans un troisième temps, ça débouche sur l'histoire d'un État, ce qui est l'État de cette nation.
Alors, je crois qu'il conviendrait de revenir un petit peu sur les origines, hein, en fin de compte, les origines ethniques, voilà, l'ethnogénèse en quelque sorte du peuple ukrainien est telle que les Ukrainiens la voient. Donc, comment on pourrait montrer dès le début qu'en fin de compte, on sort du schéma classique historiographique russe, notamment de la Trinité, du schéma trinitaire de ces trois peuples slaves, voilà, orientaux, avec la prédominance d'un grand frère, de cette manière. Ça nous fait remonter à la fameuse Rus de Kiev. Il faut bien différencier, vous allez nous le redire, de la Russie de Kiev, hein, qui est un syntagme erroné, qui est aussi pertinent que si on parlait de la France d'Aix-la-Chapelle pour désigner l'Empire carolingien, et même remonter un petit peu en amont pour voir quelles sont un petit peu les différentes strates, les différentes empreintes que les Ukrainiens mettent en avant dans la genèse de leur ethnie, de leur peuple.
Alors, cette Ruthénie ou cette Rouche qui est Vienne, qui n'est en effet pas la Russie, est elle-même l'héritière d'une longue histoire ethnique, puisqu'en fait, c'est l'État des Slaves orientaux. C'est l'État où vivent les ancêtres linguistiques des Ukrainiens, des Russes et des Biélorussiens ou Bélarussiens. Ces Slaves orientaux ne sont pas une espèce de peuple homogène. C'est un ensemble de 12 tribus. La chronique kiévienne médiévale nous énumère 12 tribus, étalées sur un très large territoire qui va de la Russie, d'Europe, à la mer Noire, en passant par la Biélorussie et les confins de la Lituanie.
Voilà, de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Voilà.
Presque de la Baltique jusqu'à la mer Noire, oui, de la mer à la mer, ouais. Et qui sont bien entendu différenciés en termes de dialecte et de culture. Cette différenciation peut être faible, mais il faut bien penser que si on saisit ces tribus à la veille de la constitution de l'État kiévien, c'est-à-dire par exemple au début du IXe siècle, on est encore à un moment où les Polonais, les Bulgares, les Slovènes parlent à peu près la même langue, parlent des dialectes tout à fait intercompréhensibles. Donc il est assez naturel que les Slaves orientaux, ce groupe oriental du monde slave, présente encore une certaine homogénéité. On ne peut pas pour autant le considérer comme un peuple, au sens moderne du terme. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État kiévien, la Ruthénie kiévienne, se forme à la fin du IXe siècle. Elle existe vraiment en tant qu'État unifié notamment par la christianisation en 988, à partir de la fin du Xe siècle. Et elle cesse d'exister en tant qu'État unifié dans les années 1130, donc au début du XIIe siècle. Et au moment où elle cesse d'exister, elle éclate en principautés qui, en fait, correspondent largement aux anciennes tribus slaves orientales. Au point qu'on peut se demander si cette période kiévienne, sur laquelle s'appuie tant l'historiographie russe, mais qu'invoque aussi, bien sûr, l'historiographie ukrainienne, parce que c'est une période glorieuse, brillante sur le plan culturel, si cette période kiévienne n'a pas été une sorte d'anomalie temporaire dans le développement d'ethnies différenciées dès le départ.
De quoi joue un rôle important sur le plan mémoriel, sur le plan symbolique et bien sûr sur le plan politique. Je pense par exemple qu'il se concerne la Russie, l'érection par Poutine il y a quelques années d'une immense statue du Kniaz Volodymyr, du prince Vladimir, donc Vladimir le Soleil Rouge.
Sous le règne duquel Moscou n'existait pas.
Exactement. Bon, on voit aussi, par exemple, je pense, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui s'appelle Vladimir Monomark. Etc. etc. Donc, on a.
Non, il y a une querelle d'héritage, alors, à laquelle, bizarrement, les Biélorussiens ne participent pas.
C'est ça,
alors qu'en fait, la Biélorussie est la seule partie du monde slave oriental qui était totalement intégrée dans ses frontières actuelles, dans cette Ruthénie qui est Vienne. Mais bon, ouais. Ça les concerne moins, leur histoire est davantage liée à la grande principauté de Lituanie et donc à la phase suivante du Moyen-Âge. Mais il y a un conflit donc mémoriel entre Ukrainiens et Russes, les Ukrainiens insistant sur le fait que les grands centres urbains de la Ruthénie qui est Vienne, les grands centres culturels se situaient dans l'actuelle Ukraine et que dans les textes apparaît très clairement un sens strict de ce nom de Ruthénie qui désigne l'Ukraine centrale. Et les Russes s'appuient depuis la période moscovite, c'est très ancien aussi, sur le fait qu'ils ont politiquement continué la tradition de Kiev, que la Moscovie a été le seul État orthodoxe indépendant et que la vieille dynastie kievienne a régné là plus longtemps qu'ailleurs.
Oui, c'est une continuité dynastique des Rurikides qui mettent surtout en avant, alors qu'il y a eu d'autres incarnations, d'autres structures étatiques qui ont perpétué, qui ont continué.
Oui, notamment le royaume de Galicie-Volhynie dans l'actuelle Ukraine occidentale, qui est vraiment une héritière très directe de la Ruthénie qui vient. Moi, je pense
le roi Danilo.
Oui, je pense que cette querelle d'héritage est assez vaine. Il est évident que les Ukrainiens, les Russes, les Biélorussiens ont des droits à cet héritage. Leur culture en dérive directement. Il y a une tradition ecclésiastique qui est la même dans les trois cas, etc. etc. Je ne vois pas en quoi l'existence de cet État qui était différencié, qui était assez hétéroclite, géographiquement, culturellement, dialectalement, justifierait le retour à cette espèce d'unité fantasmée aujourd'hui. Imaginez que quelqu'un invoque le fantôme du Saint-Empire romain germanique pour expliquer que les pays qui le composaient doivent faire partie de l'Allemagne.
Non, et puis bon, vous signalez donc dans quelques textes qui font partie de votre recueil qu'une différenciation donc va se faire sur le plan linguistique, bien entendu, au cours du Moyen-Âge, mais également au niveau de ce qu'on pourrait qualifier de psychologie des peuples, même une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire les distorsions, la rupture amenée notamment par l'invasion mongole. Par la longue domination notamment de la Horde d'Or plus tard, sur une bonne partie de la Russie actuelle, ce qu'on appellera à l'époque, on va y revenir, la Moscovie.
Ça, c'est très important, et c'est très important notamment dans un cadre actuel où on voit l'identité ukrainienne évoluer. Elle conserve bien sûr ses bases traditionnelles, l'ethnie, la langue, un certain nombre de grands repères mémoriels, mais elle est devenue aussi une identité territoriale et une identité civique à laquelle participent maintenant très activement diverses minorités, que ce soit les Tatars de Crimée, que ce soit les Juifs d'Ukraine ou même une partie des Russes d'Ukraine. Et c'est lié à ce que vous disiez, c'est-à-dire à des évolutions psychologiques et à des cultures politiques très différentes dans les trois pays slaves orientaux. Alors pour prendre les deux cas essentiels, l'identité ukrainienne, la tradition politique ukrainienne s'est forgée dans le cadre lituanien, puis polonais, et avec ce facteur cosaque dont nous reparlerons sûrement et qui a joué une grande importance entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et ces états, ces structures politiques préfigure ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit.
Voilà, mais de manière générale, on peut dire que l'ethnos ukrainien, même s'il n'avait pas son propre état, mais il constituait par exemple le cœur de la grande principauté de Lituanie en particulier, est resté connecté aux manifestations essentielles de l'assimilation européenne durant une partie du Moyen-Âge et de l'époque moderne.
Absolument.
À la différence de la Moscovie.
Notamment à la notion de loi et de droit, Alors conçu, bien sûr, très différemment.
La fameuse Ruska Pravda.
Des sens actuels.
Hein, Ruska Pravda.
Oui, oui. Il y a la codification du droit quotidien. Il y a aussi, par exemple, dans les villes, le droit de Magdebourg, qui est un système d'autonomie municipale qui existe en Europe centrale, qui était inconnu complètement en Russie, où il était inconcevable. Et il y a ce système cosaque qui a créé un type de... J'aime pas ce terme rabâché de démocratie guerrière, parce qu'en fait, ça ne signifie rien. Ça n'était pas purement guerrier, ça n'était pas une démocratie. Mais néanmoins, c'est un système, en effet, radicalement différent de ce qui se créait à la même époque en Moscovie, l'autocratie. Cette autocratie dans laquelle le peuple russe s'est formé et a vécu jusqu'à nos jours.
Une autocratie de type patrimonial. C'est ça aussi qui est intéressant de voir. Là, dans l'espace polono-lituanien, il y avait, bon, même si dans la période polonaise, d'ailleurs, vous le rappelez dans votre livre, bon, ça s'est considérablement restreint, avec une acculturation des élites ruthènes, hein, des élites proto-ukrainiennes, hein, donc à une certaine polonité, à la fois linguistique et religieuse, ben vous montrez qu'en fin de compte, bon, il y a quand même bon, l'existence d'une interaction dans le cadre du système féodal, par exemple, hein, avec aussi l'existence d'une aristocratie, avec laquelle bon, les souverains doivent composer, alors qu'on n'a rien de tel dans l'espace moscovite, où on a un souverain démiurge, dont tout émerge, donc à qui tout appartient, sur un mode personnel, sur un mode strictement patrimonial, avec un esprit de soumission qui est généralisé des boyards, de la noblesse, en tout cas d'une partie de la société, jusqu'au simple moujik, jusqu'au simple paysan.
Oui, oui, il est frappant de voir qui les Russes, aujourd'hui encore, considèrent comme leurs grands héros historiques.
Et oui, ça c'est frappant.
Ivan le Terrible, Pierre Ier... des souverains qui n'hésitaient pas à tuer leurs propres fils quand ils les soupçonnaient de complot, et des souverains qui détenaient, exerçaient en effet ce pouvoir absolu, et dont le reste de la population était littéralement les esclaves, quel que soit leur statut bas ou élevé.
Alors on a pu souvent, bon, d'ailleurs, critiquer le concept de despotisme oriental, qui a été à plusieurs reprises mise en avant, que ce soit aussi plus récemment par des penseurs marxistes comme Karl Wittfogel ou d'autres. Mais on est quand même frappé, hein, par effectivement cette rupture qui s'est faite au sein de l'espace slave oriental entre ces moscovites et l'empreinte profonde qu'ils ont subie depuis la Horde d'Or. Hein. On rappelle aussi, ben, notamment, vous parliez du droit, hein, une certaine cruauté, la peine de mort qui n'existait pas dans la...
Oui, mais je contesterai un peu le caractère oriental du despotisme.
Ouais.
Parce que si on s'intéresse de près au fonctionnement interne de la Horde d'Or, puis du Khanat Tatar de Crimée, qui a été son principal héritier à partir des années 1430, on voit à quel point l'aristocratie peut s'opposer au pouvoir du Khan, et en fait constitue un réel contre-pouvoir qui n'a jamais existé en Moscovie.
Oui, mais justement, on le voit avec l'histoire des princes de Moscou qui ont pris l'ascendant sur leurs concurrents immédiats, en fin de compte, tous les voisins qui fuient à Vladimir, à Souzdal, etc., en jouant la carte du Khan et en fin de compte, en faisant preuve d'une certaine servilité.
Alors ça, oui, bien sûr.
Le Yarlik qu'ils ont
tenu. Il est clair que c'est à l'ombre de la Horde d'Or que la Moscovie s'est constituée, d'ailleurs très habilement grâce au talent de ces souverains. Mais les souverains y ont également trouvé ce pouvoir absolu qui est une marque quand même de la psychologie politique russe. Quand on regarde les moments où les Russes ont pu jouir d'une relative liberté du choix de leurs dirigeants, ça se limite en fait à quelques mois ou quelques années. La première phase de la révolution de 1917 et les calamiteuses années de la présidence Yeltsin qui ont été gâchées, bien sûr, par les problèmes économiques et qui ont totalement discrédité les idées démocratiques qui auraient pu germer timidement en Russie.
J'ai l'habitude aussi de parler depuis quelque temps de ce que j'appelle le paradigme Novgorod, c'est-à-dire une autre Ruthénie ou une autre Russie qui aurait pu exister et se développer autour de Novgorod, avec son système du Vietché, son système proto-démocratique, bah, qui a été totalement éradiqué à deux reprises, hein, avec la répression féroce qu'ont mis en place les tsars Ivan III et surtout Ivan IV Grozny, Ivan le Terrible. Alors, qu'en pensez-vous de cette hypothèse?
L'historien n'a pas le droit de faire du oui. roman ou de pousser les hypothèses.
Non, mais en fait, il y avait des germes d'un autre rapport à l'État.
Il y a les germes d'un système complètement différent, puisque c'était une république administrée en fait par les bourgeois, par les marchands, à travers des organes élus. Et il y a même le germe peut-être d'une autre identité ethnique, puisque le dialecte parlé à Novgorod était totalement divergent par rapport à ce qui se parlait à Moscou, et que certains linguistes supposent que ça aurait pu devenir une quatrième langue slave orientale.
Voilà, c'est ça que je veux dire, ça aurait pu être un quatrième pôle slave oriental qui aurait pu émerger, s'émerger. Bon, après, on est dans l'Uchronie, mais ça a été coupé.
Il a été détruit, mais en tant que concurrent, en fait, par la Moscovie et la population de Novgorod massacrée, ce qui a fait disparaître cette ethnie en gestation.
Alors, lorsqu'on s'intéresse bien sûr à l'histoire des Slaves orientaux, de la Russie en particulier, moi je me souviens d'un ouvrage que vous connaissez peut-être, d'un certain Gustave Velter. Un ouvrage, une histoire de la Russie, qui était sorti chez Payot.
Oui, c'est l'un des classiques.
C'est un classique. Et ce qui m'avait frappé, c'est que lui avait tendance à placer dans la psychologie des Slaves orientaux en général une dimension un petit peu... un rapport libertaire, un rapport un petit peu, parfois anarchisant, qu'on a pu retrouver aussi chez les Celtes, d'ailleurs, en Europe, dans des fois leur difficulté à pouvoir constituer un État fort, un État fonctionnel. Et ils mettaient d'ailleurs sur l'empreinte, justement, mongole, la capacité des Russes à le faire, avec un État fort et militaire qui a accouché du succès que l'on sait, avec ce développement de cet empire. Et c'est ce côté un peu libertaire qu'on retrouvera, pas uniquement chez les Slaves de l'Est, d'ailleurs, chez les Polonais, avec le poids de cette noblesse, d'un système qui était, en fin de compte, dysfonctionnel, avec le système de l'unanimité, notamment au sein du régime polo-lituanien. On va retrouver un petit peu ce sort de libertarisme, d'esprit libertaire, justement, chez les Cosaques, et avec le développement de ce phénomène qui est originellement, d'ailleurs, ukrainien.
Oui, et qui s'est développé de façon différente en Ukraine et sur les autres territoires, notamment de la Moscovie puis de la Russie méridionale, où on a vu apparaître des communautés cosaques.
Parce que parfois on mélange tout, entre les cosaques russes, du
oui,
Don...
c'est d'ailleurs intéressant pour le public français, parce que jusqu'au XVIIIe siècle, l'image des cosaques qu'avaient les Français, c'était l'image des cosaques d'Ukraine. Et la France suivait d'assez près ces questions cosaques, notamment dans le cadre de sa politique polonaise, avec le mariage polonais de Louis XV, etc. À partir de la période napoléonienne, c'est bien sûr le modèle du cosaque russe qui s'est imposé et qui a un peu oblitéré ce souvenir du cosaque ukrainien. Mais c'est un phénomène qui a ses racines les plus anciennes en Ukraine et qui a pris un développement particulier avec l'association très rapide d'éléments de l'aristocratie, avec même le soutien du pouvoir lituanien à la constitution de cette espèce de force militaire d'autodéfense dans ses marges méridionales, et surtout avec la croissance de structures politiques cosaques en Ukraine, qui n'ont pas du tout prospéré de la même manière sur le Don ou dans l'Oural. Chez les cosaques russes, on a des armées. Dans le cas de l'Ukraine, on a des armées qui finissent par devenir des États.
Oui. Vous citez justement la perception que... la France du 6e et surtout du 17e siècle avait donc de l'Ukraine, d'Ouklanie. On peut penser notamment aux relations aussi de Guillaume le Vasseur de Beauplan.
Bien sûr, c'est
fondamental. C'est ingénieur militaire français qui allait donc exercer ses talents sur ces terres très orientales, en tout cas perçues comme telles pour l'époque. Je voudrais quand même citer pour nos auditeurs cette fameuse phrase, mais dans son extension de Voltaire, dans son Charles XII. Il parle justement de ces cosaques ukrainiens. Donc Voltaire écrivait « L'Ukraine a toujours espéré être libre, mais étant entourée de la Moscovie, des États du Grand Seigneur et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur. Elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne, qui la traita en sujette. Elle se donna depuis aux Moscovites, qui la gouverna en esclave autant qu'il le put. »
Notez la nuance entre sujet et esclave, qui reflète en fait très bien les rapports politiques des uns et des autres, et cette perception extraordinaire de Voltaire.
C'est ça qui est pour dire,
tout son génie de la formule.
Non, c'est vrai que il n'était pas quand même sur place, même s'il a voyagé.
Ça n'a pas empêché de chanter les louanges de Catherine II par ailleurs.
Ce que j'allais dire, la Sémiramis du Nord.
Voilà. Mais sur le dossier ukrainien, il avait fort bien vu les choses.
Alors, pouvez-vous revenir un petit peu sur ce phénomène justement de la cosaquerie ukrainienne et justement de cette constitution d'État, le fameux Hetmana, et également cette lecture ambivalente qu'ont Russes et Ukrainiens de ces fameux accords de Pereiaslav en 1654.
Alors, pour récapituler, mais très très rapidement, les choses, nous avons donc ces communautés cosaques formées d'Ukrainiens qui apparaissent à l'extrême fin du XVe siècle, dans les années 1490, qui se coule dans un moule assez classique dans la steppe, puisque cosaque est un vieux mot turc qui désigne une espèce de dissident, en fait, quelqu'un qui a rompu avec son métier, son milieu d'origine, et qui vit de brigandage, de mercenariat, un peu de commerce. Ces communautés se renforcent, une partie d'entre elles entre au service de la couronne lituanienne, puis polonaise, et ils finissent par représenter une force à la fois indispensable et très gênante pour la Pologne. Et dans le contexte de rapports très tendus entre le pouvoir polonais et la population ukrainienne, les Cosaques se font un peu les défenseurs de cette population ukrainienne, de l'orthodoxie face au catholicisme, des paysans asservis face aux seigneurs, etc. etc. Ils suscitent ou ils dirigent de grandes révoltes contre le pouvoir polonais, et en 1648, c'est une véritable guerre de libération qui éclate en Ukraine centrale et qui aboutit à la constitution de ce que les historiens appellent, pour simplifier, l'Hetmanat, c'est-à-dire un État cosaque autonome administré par l'Hetman, par le chef suprême des Cosaques, au sein de la Pologne.
C'était la fameuse révolte de Bohdan Khmelnytsky.
Absolument. Oui. Absolument. Et cet accord créant donc l'Hetmanat ne met pas fin au conflit polono-cosaque, mais en fait polono-ukrainien. Et après diverses péripéties, les Cosaques, ayant cherché sans la trouver une solution du côté polonais, ayant étudié sans être convaincu une solution du côté ottoman, finissent par demander la protection de la Moscovie en 1654.
Voilà, il y avait la dimension de la solidarité religieuse.
Il y avait la dimension religieuse,
bien sûr,
oui. C'était l'argument le plus puissant auprès des simples cosaques et disons des masses paysannes. Le tsar orthodoxe, le souverain orthodoxe indépendant, le père bienveillant qui va nous débarrasser des Polonais catholiques, etc. Et donc en 1654 est conclu ce fameux accord de Pereiaslav entre les cosaques d'Ukraine et le tsar de Moscovie, qui est l'objet de controverses violente, qui est notamment évoquée dans le texte de Poutine auquel nous faisions allusion.
Pouvez-vous revenir justement sur les deux perceptions qui se différencient, qui sont celles des Ukrainiens en général, des historiens aujourd'hui, et puis des Russes quand même.
Mais d'abord,
concernant ces accords, la nature de cet accord, est-ce que ça implique en fait ?
D'abord, deux faits qui ne sont pas anodins. Le premier, c'est qu'il a fallu des interprètes pour négocier ce traité. Donc, on avait déjà affaire quand même à deux populations bien différentes.
Et c'est bizarre, parce que moi, j'ai vu un Taras Bulba, Réalis Berlin, Bordeaux, ils parlent tous russe, là. Quoi.
Bien sûr. Je préfère mes sources. Et le second fait, alors, qui est vraiment extrêmement important, c'est que l'accord conclu, les Cosaques d'Ukraine prêtent serment de fidélité au tsar, et que le représentant du tsar refuse de jurer au nom de son maître le respect des accords, parce que le tsar, autocrate, ne peut pas s'engager envers ses sujets, et qu'il peut toujours revenir sur les conditions qu'il vient d'accorder.
Envers de futurs esclaves.
On se dit que c'était mal parti, au point d'ailleurs que certains chefs cosaques de premier plan ont refusé l'accord et sont restés du côté polonais. Donc pour les cosaques, il s'agissait de remplacer le roi de Pologne par le tsar de Moscovie, remplacer un protecteur proche par un protecteur lointain.
On était presque dans une relation de type féodal, en fait.
Oui, oui,
vassalité féodale, bon, à quelque chose de près.
De protectorat,
voilà,
en fait.
Voilà, de protectorat,
avec une armée cosaque pléthorique de 60 000 hommes, avec une autonomie très très large qui confine à l'indépendance. Alors que du point de vue moscovite, c'est tout à fait différent. C'est l'incorporation de cette partie de l'Ukraine dans l'État moscovite.
La réunion des terres historiques russes.
Oui,
la
oui.
De la Russe. En
un fait. Thème qui a prospéré. Et d'ailleurs, le tsar s'intitule immédiatement souverain de toute la grande et de la petite Russe, en ressuscitant un nom médiéval qui d'ailleurs à l'origine désignait la Galicie. Et ensuite, de cette petite Russe, on est passé très vite à la petite Russie, lorsque la Moscovie elle-même est devenue l'Empire russe.
Oui. On peut aussi rappeler pour nos auditeurs, l'effet qui est joué par le mythe de la Troisième Rome et aussi ce messianisme qui s'est développé à partir du VIe siècle en Moscovie.
L'Empire russe, alors considéré au sens large, y compris à l'époque soviétique, est un empire qui s'est sans cesse réincarné avec de nouveaux thèmes messianiques. Il y a la réunification de l'ancienne Rouge, tout ce qu'a possédé la dynastie kievienne. Il y a la libération des frères orthodoxes jusqu'à Constantinople. Il y a le panslavisme. Il y a ensuite la révolution mondiale et le marxisme-léninisme. Et aujourd'hui, il y a la piteuse tentative de Poutine de prétendre que la Russie défend les valeurs traditionnelles face à l'Occident pourri.
Quand on connaît... Il faut avoir vécu un petit peu en Russie pour voir...
Voilà, quand on connaît l'état social de la Russie, on croit rêver. Mais c'est une propagande qui a eu un certain succès dernièrement hein, dans certains milieux français.
Voilà, ben, c'est clair. Et en tout cas, bon, moi, je me prive pas de signaler à mes vieux camarades qui, souvent à juste titre, bon, ben, condamnent un petit peu les effets de la destinée manifeste états-unienne, hein, dont on voit encore en partie, je dis bien en partie, les effets dans l'actualité la plus brûlante, ben, qu'une autre destinée manifeste, hein, version moscovite, n'est pas moins condamnable, en tout cas, bon, voilà, moins critiquable que son pendant états-unien.
Elle est obstinée, mais elle n'est pas manifeste, je ne pense pas qu'elle sera éternelle.
Ouais. Ça, l'avenir nous le dira de cette manière. Donc, ce phénomène Kozak, effectivement, montre non seulement la permanence d'une mentalité, d'un rapport à l'autorité, à l'État, qui est extrêmement différent, pour pas dire complètement antinomique de ce qui se passe en Moscovie, devenue empire russe en 1721 sous le tsar Pierre le Grand, mais également des entités étatiques, proto-étatiques, sinon étatiques, qu'on restitue, qu'on intègre dans le roman national ukrainien.
Bien sûr. Il y a l'Etmana, donc, qui a duré jusqu'à sa suppression par Catherine II en 1764. Il y a la fameuse Sitch des Cosaques Zaporog au sud de l'Ukraine, république militaire indépendante qui a existé, elle, jusqu'en 1775. Et donc tous les Ukrainiens qui ont vécu dans le cadre de ces systèmes ont vécu dans des systèmes qui avaient au moins un discours relativement égalitaire, qui offraient aux gens des chances en fonction de leurs talents et qui étaient des systèmes électifs. L'Hetman des Cosaques était élu par les Cosaques et vivait en fait sous la suzeraineté plus ou moins réelle suivant les époques du roi de Pologne qui était lui-même un souverain élu. Donc ce sont vraiment des institutions, des modes de fonctionnement radicalement opposés à ceux de la Moscovie puis de la Russie. Et l'incorporation progressive de l'Ukraine à la Moscovie et ensuite à l'Empire russe a été, province par province, un alignement juridique et une tentative d'alignement psychologique et culturel sur les schémas russes.
Alors on pourrait rappeler très rapidement, si paradoxalement, que certaines élites ukrainiennes ont participé au phénomène d'occidentalisation du pouvoir russe, notamment sous Pierre le Grand. Hein, avec l'académie de Kiev Morella, par exemple, et puis bon, certains clercs, des clercs notamment, hein, qui ont joué un rôle à la fois sur le plan religieux, sur le plan culturel, sur le plan linguistique.
Enfin, bien sûr, alors, je ne voudrais pas du tout donner l'idée ridicule et complètement anachronique d'une Ukraine résistant de manière unanime à la mainmise russe. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, toute une partie de la population n'avait pas voix au chapitre, hein, les paysans asservis et surasservis par Catherine II, mais les élites, et Poutine le souligne, et il a raison, ont participé à la construction de l'Empire russe et à son occidentalisation, même si le modèle n'est pas toujours occidental, il pouvait être davantage polonais ou
centre-européen. Je dirais modernisation, d'une certaine manière. Voilà,
modernisation
européenne, mais certainement. Psychologiquement, on reste moscovite.
Apports sont très diversifiés. Il y a des apports linguistiques, avec par exemple la révision des textes saints. Il y a des apports culturels, avec le chant polyphonique religieux qui n'existait pas en Moscovie, qui a été importé d'Ukraine, etc., etc. Donc il y a eu toute cette participation et d'innombrables artistes ukrainiens, par exemple, des peintres, des musiciens, ont travaillé dans un cadre qui était devenu un cadre russe et ont été d'une certaine manière absorbés par la culture russe.
Et d'ailleurs, vous le soulignez dans un de vos textes, un des drames de l'Ukraine, beaucoup plus d'ailleurs que l'Irlande, hein, donc, avec laquelle il y a des analogies historiques assez frappantes parfois. L'Ukraine n'a pas bénéficié, au contraire, elle a subi une acculturation souvent de ses élites. Tout à l'heure, on évoquait un petit peu le cas de la polonisation, une partie justement des élites ukrainiennes ou proto-ukrainiennes, bon, dans le cadre de ce vaste État qui était la République nobiliaire polono-lituanienne. Mais il s'est produit, comme on vient de le dire, et le même phénomène à partir du XVIIIe siècle surtout, donc dans les gubernias, dans toute la partie...
Non, mais dans le cadre polonais, déjà, on voit très bien cela. Alors, il n'y a jamais eu de polonisation forcée ou de conversion forcée au catholicisme. Mais les élites, bien entendu,
ont vu leur intérêt.
Au point que le principal ennemi des Cosaques au moment de la révolte de 1648, le prince Vishnevetsky ouais. est en fait issu de la famille ukrainienne des Vishnevetsky, famille orthodoxe, passée au catholicisme et passée à la culture polonaise, qui a même donné un roi à la Pologne. Ouais. Et le phénomène s'est beaucoup développé à l'époque russe, avec bien entendu le passage à la langue russe, à la culture russe et au service de l'Empire. Le personnage le plus emblématique de cela, c'est Gogol, Nicolas Gogol, ouais, dont le père écrivait des pièces de théâtre en ukrainien, et le fils, lui, a bien sûr écrit une partie de son œuvre sur l'Ukraine, mais en russe.
Bien, avec beaucoup d'ukrainisme. Hein.
Avec énormément d'ukrainisme. Et un certain nombre de remarques de sa part qui laissent à penser qu'il y a une espèce de nostalgie quand même de cette Ukraine ukrainienne. Mais voilà, il était entré dans le courant russe.
Alors, ce que vous montrez également dans les textes qui composent votre recueil, c'est que, en fait, l'identité ukrainienne, elle se maintient à l'intérieur du cadre paysan. Elle se maintient surtout autour de la langue. Et qui va être plus codifié d'ailleurs à partir de la fin 18e, début 19e, avec certaines figures clés dont vous allez pouvoir nous reparler, comme Kotlyarevski et surtout Taras Shevchenko.
Voilà, il y a la base paysanne ukrainophone à 100%, en fait, qui est cette espèce de réservoir des traditions populaires, de la mémoire historique populaire.
Un conservatoire,
oui, c'est cela. Une réserve, si l'on veut. Et puis, il y a une élite intellectuelle, pas forcément très nombreuse, mais qui se renouvelle, qui se recompose de génération en génération, qui est issu de toutes les élites sociales. Il y a l'ancienne couche cosaque qui maintient une certaine nostalgie de la période d'autonomie. Il y a des intellectuels de toutes sortes et il y a des gens qui viennent de très très bas, puisque Taras Shevchenko, le poète national, grand peintre également...
Qu'on a célébré récemment d'ailleurs.
Voilà, qui est né en 1814, mort en 1860, était né dans le servage.
Alors, le moment est venu d'une petite pause, d'un petit bobino pour notre radio.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, nous reprenons l'antenne. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Pascal Lassalle sur Radio Courtoisie, naturellement, qui a le plaisir de recevoir une fois de plus, donc à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Yaroslav Lebedinsky, donc qui enseigne l'histoire de l'Ukraine aux langues orientales, à l'INALCO, et grand spécialiste des cultures guerrières des steppes et du Caucase, pour son dernier ouvrage dont je disais, intitulé « Sur l'Ukraine, conférence et intervention 1999-2025, publié dans la collection Présence ukrainienne chez L'Harmattan. Alors justement, mon cher Radoslav, nous parlions de la paysannerie ukrainienne en tant que conservatoire de son identité, notamment sur le plan linguistique. Et vous pouvez d'ailleurs nous rappeler que l'ukrainien n'est pas un dialecte du russe, mais qui est une langue à part entière, quoi, dans l'espace, dans la branche slave orientale.
Je me contenterai de dire que l'Académie impériale des sciences russes de Saint-Pétersbourg a reconnu ce fait en 1906. Donc le débat est clos depuis très longtemps, et c'était encore dans un contexte où il fallait un certain courage pour le dire. Oui, c'est une langue à part entière. C'est une langue qui, bien entendu, apparentée aux Russes, mais aussi aux Polonais, et que les Russes, d'ailleurs, affectent de ne pas comprendre. Donc il y a un moment où il faut choisir.
Oh, mais qui, parfois, ne comprennent pas. Moi, j'ai pu le vérifier dans ma vie personnelle.
Oui, ça dépend des niveaux de langue et des sujets évoqués. Mais c'est vrai que, par exemple, phonologiquement, c'est très désorientant pour un Russe, et que, là, le fait est intéressant. Toute une partie du vocabulaire politique, social, économique se rapproche davantage des termes polonais que des termes russes.
Termes polonais, slovaques, etc. On le voit.
Parce que ça a été formé dans un contexte politique qui était celui dont nous parlions tout à l'heure.
Ah oui. Alors, Ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Bon, nous pouvons dire que chronologiquement, nous sommes au XIXe siècle. Nous avons dit tout à l'heure que c'était aussi le moment du romantisme, de la redécouverte des racines, hein, des folklores, au bon sens du terme, dans toute l'Europe, en particulier dans cette Europe multi-ethnique, notamment des grands empires, l'Empire austro-hongrois en particulier, où on a des peuples qui n'ont pas encore constitué d'État et qui sont influencés par le modèle français, bien sûr, hein, par ce virus national, entre guillemets, qu'a développé la Révolution française sous la République et surtout sous le Premier Empire. Et on voit que, bon, ben, vous le disiez, bon, l'Académie Saint-Verzo a reconnu l'ukrainien comme langue à part entière en 1906, mais bien avant, il y a eu déjà une politique de répression linguistique, hein, mise en place surtout sous Alexandre II, voire Alexandre III, la russification qui s'est développée.
En fait, elle a commencé à la fin du XVIIe siècle, très tôt, dès les années 1670. Elle s'est poursuivie sans désemparer et elle a connu son paroxysme avec les décisions de 1863 et 1876, la fameuse circulaire Valouyev et l'oukase impérial d'Ems, ouais, qui en fait interdisait totalement l'impression en ukrainien.
Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette époque, une bonne partie donc du peuple ukrainien est sous domination impériale russe. Mais on a également une partie qui est située dans l'Empire austro-hongrois, donc la Galicie.
La Galicie, donc le sud-ouest de l'actuelle Ukraine, qui au moment du partage de la Pologne en 1772 a été incorporée à l'Empire autrichien et non pas à l'Empire russe. Et la politique autrichienne y a été extrêmement différente, ce qui d'ailleurs suscite les regrets amers de M. Poutine, qui pense que les Autrichiens ont manipulé cette conscience ukrainienne naissante pour la dresser contre la Russie. En réalité, les Autrichiens ont appliqué la politique assez libérale qu'ils appliquaient ailleurs. Ils ont laissé leurs ruthen, comme ils disaient, parler leur langue, écrire leur langue, enseigner leur langue, développer leur propre littérature. Et finalement, avec la relative libéralisation de l'Empire à la fin du XIXe siècle, disposer de leurs propres représentants élus, de leur parti politique et de tout un programme de renaissance nationale. Et cette Galicie a servi de base arrière.
Une sorte de piémont aussi. Piémont voilà. Culturel. Quoi, et
voilà, c'était la position de repli des militants d'Ukraine russe qui ne pouvaient pas publier, qui ne pouvaient pas s'exprimer publiquement et qui donc ont travaillé pour beaucoup en Galicie. Ce qui a d'ailleurs renforcé le sentiment d'unité des Ukrainiens des deux côtés de la frontière et cette conception d'une nation ukrainienne unique. Les choses auraient pu se développer différemment. Mais elles se sont faites dans le sens de la fusion de toutes ces populations ukrainiennes en une même nation politique.
Voilà, avec aussi une langue littéraire qui a fini par se former.
Tout à fait. À la fin du XIXe siècle, la langue littéraire qui s'écrit en Ukraine autrichienne, en Galicie, et qui s'écrit, mais sous le manteau, en Ukraine russe, est la même à 95%.
Alors c'est vrai que pour revenir au cas français, par rapport à ce qui fut notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, là, l'Ukraine en tant qu'entité singulière est totalement sortie des radars. Hein, je pense par exemple au gros ouvrage d'Anatole Roy-Beaulieu, hein, qui comparait les Ukrainiens presque à des provinciaux. Quoi, je veux dire, c'était comme c'était comme une Provence qui fait partie de l'espace républicain français. En fait, c'était vu comme une entité régionale et puis surtout comme une petite Russie.
Croyez-vous que c'est par hasard que Kiev ait été jumelé à Toulouse à l'époque soviétique ? Ouais. Il y avait une espèce de rappel de cette idée que oui, c'était le midi de la Russie.
Là, on se souvient aussi de Giscard d'Estaing qui parlait de Rhône-Alpes. Là, c'est une région Rhône-Alpes un petit peu étendue. Enfin, il y a eu cette permanence de ces préjugés qui relèvent bien sûr de jacobinisme.
Alors, ça relève en partie d'un jacobinisme et d'une tradition française qui, comme on le disait, est une tradition essentiellement étatique, d'une vieille méfiance française à l'égard de toute forme de nationalisme ethnique qui, bien sûr, pourrait porter préjudice à la France elle-même.
Voilà, et puis virer au séparatisme. Et,
bien sûr, bien sûr. Mais j'ai entendu ce genre de réflexion souvent, hein, dans les années 1980. L'Ukraine, très bien, mais alors la Bretagne, bon. Et puis, il y a aussi, il y avait en France une part d'ignorance, mais qui est due à la propagation de ces schémas historiques russes. Et c'est assez naturel, en fait. Pourquoi les Français les auraient-ils remis en cause?
Et puis, on est d'une période particulière, la fin du 19e, début 20e siècle. C'est, bon, voilà, c'est l'amitié franco-russe, c'est l'âme russe, dont on parle beaucoup.
Bien sûr.
Et avec une l'âge d'argent, et avec les Diaghilev, etc.
Et avec une piqûre de rappel après 1945, en version marxiste, avec Staline, le père des peuples, l'Union soviétique victorieuse et un parti communiste très, très puissant.
C'est ça qu'on voit, que ce schéma se pérennise malgré ses avatars, en fin de compte.
Le premier livre que j'ai lu sur, non pas l'Ukraine, mais la question des rapports entre Ukrainiens et Russes, s'intitulait « Russes et Ukrainiens ». Et était dû à un monsieur Roger Portal, qui était en fait un universitaire marxiste.
Je l'ai, ce petit fascicule. Voilà. Ouais, c'est collection Champ-Flammarion.
Et qui expliquait.
Pas Champ-Flammarion, mais une autre question.
Ça date des années 1970. Ouais. Et il expliquait que voilà, le problème ukrainien avait été réglé à la satisfaction générale.
Ouais, ça, mais je me rappelle ces petites collections. Là, je crois que c'est question d'histoire chez Flammarion, voilà, avec des textes, une partie de texte. Alors, dans je reviens un petit peu au texte de Poutine. Mais Poutine, il voue aux gémonies de Lénine. Parce qu'il dit, en fait, de compte, l'Ukraine est une création léniniste, un État créé de toutes pièces sur des terres historiques russes. Alors, je crois que ça nous amène un petit peu à développer, en fait, de compte, c'est vrai, c'est une période assez complexe, de cette émergence difficile d'un État ukrainien au lendemain de la Première Guerre mondiale.
D'abord, ça a été une surprise pour tout le monde, y compris pour les Ukrainiens. Il y a eu cette phase libérale de la révolution russe de mars 1917 au coup d'État bolchevique de novembre 1917, pendant laquelle un peu tout le monde a pu s'exprimer, et pendant laquelle on a assisté à une montée en puissance, mais extraordinaire, inattendue même pour les intellectuels ukrainiens, du sentiment national ukrainien et des revendications nationales.
Lénine n'y est pour rien. Là, hein.
Lénine n'y est pour rien, mais Lénine a eu l'intelligence de tenter de détourner ça à son profit en créant, à partir d'un certain moment, ses propres structures bolcheviques ukrainiennes.
Alors, on va y revenir, mais avant cela, il y a eu quand même identité indépendante ukrainienne, qui a essayé de résister.
Il y a une revendication massive d'autonomie. Alors le terme est ambigu, qu'est-ce que voulait exactement le paysan de la région de Poltava, c'est difficile à dire, mais il y a cette revendication, et il est frappant de voir ces photos de manifestations de avril, mai, juin 1917, etc., où l'on voit certes les drapeaux rouges et les slogans révolutionnaires, mais aussi les drapeaux bleu et jaune ukrainiens qui ont fleuri spontanément, et des slogans portés par des dizaines de milliers de personnes, liberté pour l'Ukraine, Ukraine autonome, République ukrainienne, etc., etc. Et ça se termine donc par la proclamation d'un État ukrainien autonome, puis indépendant, après le coup d'État bolchevique, puisque les structures ukrainiennes autonomes qui se mettent en place ne reconnaissent pas la légitimité du nouveau pouvoir bolchevique. D'où un enchaînement d'événements, guerre entre la Russie bolchevique et cette toute nouvelle Ukraine, retournement diplomatique avec une paix séparée entre l'Ukraine et les empires centraux, Allemagne et Autriche-Hongrie, rétablissement donc de l'indépendance de l'Ukraine avec l'aide de l'Allemagne, ensuite défaite de l'Allemagne en novembre 1918 et nouvelle guerre entre l'Ukraine et la Russie, et finalement victoire au terme de moult péripéties des bolcheviks en 1921.
Voilà. Avec l'émergence aussi de figures aujourd'hui qui sont marquantes dans la mémoire historique ukrainienne, hein, le président universitaire Mikhail Rouchevski, Simon Petloura, hein, et surtout quelqu'un qui vous est cher, Letman Pavlo Skoropadsky. Pour ne citer que, quoi.
Ce sont tous ces gens qui ont porté à différents moments l'identité de cet État ukrainien sous des formes différentes, républicaines, néo-cosaques et quasi-monarchistes, etc. Et on peut également citer l'anarchiste Makhno, qui ne se présentait pas du tout en patriote ukrainien, mais qui représentait aussi...
Un phénomène cosaque,
des réminiscences...
Voilà. Libertaire, on parlait d'esprit libertaire tout à l'heure.
Dans les régions qui avaient été celles des Cosaques Zaporog et où c'était très vivant. Ouais. Donc il y a eu à l'intérieur de cette révolution russe, qu'on présente toujours comme une espèce d'ensemble ou comme une guerre contre les blancs et les rouges, une affaire russe, il y a eu une révolution ukrainienne qui a été une révolution
nationale. Rappelons
d'ailleurs
que les Ukrainiens ont lutté contre les rouges, contre les bolcheviks, mais également contre les blancs, hein, notamment ceux qui avaient comme volonté de reconstituer la Grande Russie.
Polonais qui avaient cette volonté de reconstituer la Pologne historique. Voilà. Celle d'avant les partages.
Voilà, et qu'ils ont récupéré en partie. Hein, donc,
voilà, et voilà, il émerge de tout ça, la situation de l'entre-deux-guerres, avec une Ukraine soviétique qui regroupe la plupart des territoires ukrainiens au sein de l'Union soviétique à partir de 1922, donc une république fantoche soviétique.
Alors, ce qui est intéressant, ce que reproche, en fin de compte, on voit donc les postulats de Poutine sur Lénine, création d'une Ukraine. En fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Lénine a utilisé ce sentiment national ukrainien pour l'instrumentaliser, pour diffuser, pour enraciner le marxisme au sein des masses paysannes ukrainiennes, avec cette brève période d'ukrainisation, de colonisation, oui. Hein, où on a eu, bon, en fin de compte...
L'Ukraine soviétique, à partir de sa moment où elle commence à se constituer vraiment en 1919, donc en pleine guerre, hein, en guerre de tout le monde contre tout le monde, l'Ukraine soviétique reprend sur le papier les frontières de l'Ukraine indépendante. Frontières qui ont été reconnues au traité de Brest-Litovsk.
Voilà, et puis même par rapport à l'Ukraine, vous le rappelez, ils ont perdu quelques territoires. Hein, voilà, la région de Koursk, la région de...
Là où ces frontières ne suivent pas la délimitation ethnique et s'en écartent notablement, c'est au détriment
des Ukrainiens. Ouais.
Et lorsque la frontière entre la Russie soviétique et l'Ukraine soviétique est vraiment fixée, donc en 1921-22 jusqu'en 1924, elle reprend le tracé de... En fait, des provinces à majorité ukrainienne de l'Empire russe. La Russie, à ce moment-là, n'a pas cédé des terres russes à l'Ukraine. Si on regarde la carte ethnique soviétique, hein, ouais. Pas celle qu'aurait inventée je ne sais quel nationaliste ukrainien, la carte soviétique ethnique, on s'aperçoit qu'il existe des îlots de peuplement russe en Ukraine, dans le Donbass, dans le sud-est, et qu'il existe des territoires considérables peuplés majoritairement d'Ukrainiens en Russie. La région du Kouban à l'est de la mer d'Azov, les régions de Koursk et de Voronezh, etc., etc.
Mais même, on peut revenir jusqu'à récemment. Moi, j'ai un volontaire ukrainien que j'ai rencontré il y a quelques temps, qui me racontait, qui a fait l'opération de Koursk, qui me racontait, il est tombé sur des babousias, qui parlait une sorte de surdjik russo-ukrainien, et voilà, qui racontait que leurs ancêtres parlaient ukrainien.
C'est ce qu'on appelait l'Ukraine slobodienne, c'était ouais. Cette région de colonisation militaire créée au XVIIe siècle, cosaque mais n'appartenant pas à l'Hetmanat principal, et dont toute une partie aujourd'hui relève de la République de Russie.
Donc en fait, on constate bon, encore dans cette période troublée, donc de l'entre-deux-guerres, bien sûr il y a la Seconde Guerre mondiale, bon, mais cette identité ukrainienne irréductible qui se manifeste de différentes manières.
Alors, comme vous l'avez rappelé, elle est encouragée dans un premier temps par le pouvoir soviétique pour briser les cadres d'anciens régimes, pour constituer une élite ukrainienne communiste, loyal au régime, etc. Et en 1929-30, Staline, parvenu au pouvoir personnel, donne un coup de volant brutal, arrête l'ukrainisation et revient en arrière. Il faut lire les circulaires adressées par Staline et Molotov aux responsables du parti en Ukraine. En 1932 en particulier, j'ai un texte en tête, disant qu'à compter de tout de suite, en fait, les journaux ukrainiens paraîtront en russe, que l'enseignement se fera dans les écoles en langue russe, etc., etc., etc.
Et c'est ça qui pourrait paraître paradoxal, de voir que le géorgien Staline se réapproprie, en fin de compte, bon, ben, la dimension impériale.
Le géorgien Staline, comme le corse Bonaparte, a
oui, voilà, ou l'allemande de Catherine.
le cheval de l'Empire, il s'est complètement ouais. Identifié à ça, et il n'a pas fait grand-chose pour les géorgiens.
Voilà, d'ailleurs, on comprend pourquoi Staline revient au goût du jour hein, en ce moment en Russie, et de plus en plus, hein, sans vergogne, sans scrupule. On le voit, donc, que ce soit à l'échelon provincial ou même...
Ça n'a rien de marxiste ou même de proprement stalinien. Ouais. C'est le mythe de la puissance et c'est ce mythe poutinien entre tous de la grande guerre patriotique, gagnée bien entendu par l'Union soviétique toute seule, malgré les sournoises tentatives des alliés occidentaux de s'allier à Hitler. Parce qu'en fait, tel est le discours tenu aujourd'hui en Russie sur la Seconde Guerre mondiale.
Oui, puis même, on pourrait préciser pour beaucoup de compatriotes, hein, bon, souvent qui nous rappellent effectivement le rôle qu'a joué l'armée rouge dans la défaite du national-socialisme, qu'il y avait pratiquement 7,5 millions, je crois, de soldats soviétiques qui étaient ukrainiens, qui ont payé un prix considérable proportionnellement à la population ukrainienne, hein, que des soldats ukrainiens qui ont libéré le camp d'Auschwitz. Enfin bon, voilà, là aussi, on reprend, en fin de compte, bon, les postulats
Poutine,
du narratif.
Poutine use et abuse ouais. Du terme de nazi. Les Ukrainiens ont collaboré avec les nazis, en différents blocs, bien sûr. Donc, les Ukrainiens d'aujourd'hui sont des nazis. Enfin, on voit l'enchaînement de pensées un peu surréalistes. En réalité, on a des chiffres. Hein. On sait très bien qu'il y a eu 200-250 000 soldats ukrainiens sous l'uniforme allemand pour des raisons qu'on pourrait développer. Ça n'était bien entendu pas des nazis. Oui, ce phénomène est réel. Il y a eu 4 millions et demi d'Ukrainiens dans l'armée rouge.
Voilà, semaines,
avec un nombre de victimes, bien entendu, proportionnel. Donc ça ne se compare pas. Et il faut évoquer le troisième élément du triptyque, c'est-à-dire la résistance nationale ukrainienne anti-allemande et anti-soviétique.
La fameuse armée insurrectionnelle ukrainienne.
L'armée insurrectionnelle ukrainienne qui a représenté peut-être elle aussi jusqu'à 200 000 hommes à un certain moment.
Et dont on a célébré récemment, d'ailleurs j'ai cité à certaines célébrations.
De toute façon, moi aujourd'hui, je veux bien discuter d'histoire sur ces points, je refuse totalement d'entrer dans le débat stupide sur les nazis ukrainiens. Ça n'a tout simplement pas de réalité. C'est une espèce de leurre lancée par la Russie qui a manipulé ce thème dans l'après-guerre et jusqu'aux années 1980 avec un certain succès d'ailleurs, il faut le dire, notamment en France et en Allemagne. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce type de propagande ne mord pas et qui ne s'appuie sur rien de réel en ce qui concerne l'Ukraine actuelle.
Voilà, en tout cas, tant qu'on ne fréquente pas trop les réseaux sociaux, on peut trouver le meilleur et très souvent, notamment cette question, le pire en fin de compte. Mais effectivement, vous vous rappelez très justement que voilà, le parti pris de certains Ukrainiens en faveur de l'Allemagne n'avait rien d'une adhésion aux thèses de l'idéologie raciste.
Mais avouez que c'est difficile pour un slave quand même.
En plus, voilà.
je veux être un sous-homme. Non, c'est déraisonnable.
Voilà, de toute façon, je renvoie nos auditeurs à une autre émission où je crois que nous avions abordé
Et puis je pense qu'il ne faut pas justement tomber dans le piège et trop développer ces thèmes. Et pour ce qui est de l'Ukraine actuelle, oui, il y a des nationalistes ukrainiens radicaux aujourd'hui, y compris des gens qui manipulent des thèmes des années 30, des codes visuels.
Oui, voilà, on voit des hooligans, ça se voit, mais on ne peut pas réduire ça, vous voyez.
Je renvoie tout simplement aux élections ukrainiennes, élections libres, contrairement à certaines autres, où les gens qui se présentent comme des nationalistes et comme les héritiers, notamment de la fameuse organisation des nationalistes ukrainiens des années 1930-1940, font 2% des voix. C'est ça le potentiel du nationalisme radical en Ukraine.
Voilà, donc après,
après, il y a un patriotisme fort et d'autant plus fort que c'est la guerre. Ça n'a rien à voir avec un quelconque nazisme.
Alors, ce qu'on pourrait voir, paradoxalement, c'est ce que le sociologue Julien Neuro qualifiait comme de phénomène d'hétérotélie. C'est-à-dire, en fait, quand on accouche de résultats totalement contraires à ce qu'on avait espéré initialement, mais qu'en fin de compte, un des grands promoteurs du patriotisme, voire du nationalisme ukrainien aujourd'hui, même si c'est au prix des larmes, du sang et des destructions, c'est Vladimir Poutine.
J'avoue que je ne le comprends pas. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage de Poutine tel qu'il s'est révélé depuis 2014, puisque, comme tout le monde le sait, la Russie disposait en Ukraine de leviers extrêmement puissants. Oui. Des hommes politiques qui étaient pro-russes pour des raisons diverses, des intérêts économiques très grands, une certaine inertie des Ukrainiens, un patriotisme ukrainien plutôt bon enfant, avec cette expression qui revenait sans cesse et qui m'horripilait d'ailleurs à l'époque, tout ça c'est pareil, au fond russe, ukrainien.
Et puis vous et notre ami commun Mikolaj Riabchuk aussi avaient développé aussi cette problématique des failles identitaires au sein de l'Ukraine, d'abord des fractures identitaires, de ce no man's land identitaire concernant une partie de la population ukrainienne à la fois russifiée et soviétisée. Donc, effectivement, la Russie bénéficie d'énormes atouts.
Il y avait une nation ukrainienne, mais qui avait subi des dégâts considérables à l'époque soviétique.
On n'a pas parlé du Rodomor,
les millions de morts de la famine, la guerre mondiale, les persécutions, etc. Donc, il y a eu beaucoup de réflexes hérités de l'époque soviétique. Poutine aurait pu jouer là-dessus. Et quand je vois la situation même la situation de ces dernières années, il faut réaliser que le président Zelensky, quelques années après son élection, était passablement impopulaire.
Il faisait 20% des opinions favorables, je crois 19% avant février 2022.
Que la Russie aurait probablement pu susciter ou soutenir un candidat discrètement pro-russe qui aurait promis, comme en son temps Yanukovych, mais de manière peut-être un peu plus articulée, de revenir au bon ordre. Il a choisi la voie militaire, peut-être parce qu'il était mal informé des réalités, voire totalement désinformé par son entourage, peut-être parce qu'il a pensé que c'était le dernier moment où il pouvait le faire, et qu'on était dans un moment justement de consolidation de cette identité ukrainienne et d'une dérive lente mais progressive de l'Ukraine en direction de l'Ouest qui allait finir par creuser le fossé.
Ce retour à l'Europe, cher Mykola Khrylovy, mais justement, il y a effectivement, je suis d'accord, je vous rejoins totalement dans le fait que, moi j'ai pu le constater sur place, je suis historiographe de formation, donc je m'intéressais beaucoup à la manière dont l'histoire était enseignée, à tous les niveaux donc de l'enseignement public. Bon, j'ai une bonne collection d'atlas historiques et de manuels. Effectivement, on voit que pour la nouvelle génération, il y avait un renforcement de cette conscience nationale qui avait tendance à s'unifier même dans les parties de l'Ukraine qui étaient traditionnellement soviétisées et russifiées, et avec ce clivage que certains encore agitent, alors que ce clivage n'est plus pertinent aujourd'hui entre ces deux.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Quand on a eu ce mouvement des volontaires en 2014, tous ces gens qui sont allés rejoindre l'armée pour se battre contre les séparatistes et donc en fait contre l'armée russe dans l'est de l'Ukraine, on s'est aperçu qu'il y avait des proportions de russophones tout à fait considérables.
Bon, on voit qu'une partie aujourd'hui du jeune nationalisme ukrainien est issu notamment ce qui se développe aujourd'hui sous la forme de nationalisme soldatique avec des corps d'armée entiers comme le 3e corps d'armée bâti sur un noyau Azov, la fameuse 3e brigade d'assaut autour d'Andriy Bilevski, ancien patriote d'Ukraine, ou même la 12e brigade de la garde nationale Azov, l'original. Mais on voit, ce sont majoritairement à l'origine des russophones. Moi, j'ai pu rencontrer certains de leurs cadres, ils parlaient tous russe.
Bien sûr, bien sûr.
Naturellement, ils parlent russe.
Qu'une partie de toute cette population russophone est en train, je lisais un article tout récent là-dessus, de rejeter la langue russe.
Alors, ça se fait à des degrés divers, ça dépend. Voilà. Il y a des modulations selon les classes d'âge.
On voit que même dans l'ancienne génération, où vraiment le russe était la seule langue parlée dans certaines régions, dans certaines classes sociales, etc., on a cette idée que ça serait quand même mieux de parler ukrainien. Alors, c'est assez déclaratif pour l'instant, il n'y a pas de changement possible du jour au lendemain, mais je pense que sur longue période, on va voir la russophonie décliner en Ukraine. Oui, ce sera l'un des résultats de cette guerre. Oui, de toute façon, Poutine a bombardé des villes qui étaient à majorité russes ou russophones.
Ah ben là, je veux dire, les russophones ont payé le prix, un grand massacre de russophones.
Il a dégoûté les russophones restants de la Russie, il a soudé la nation ukrainienne, il a soudé les minorités nationales à la nation ukrainienne, dans une espèce de nouvelle nation plus civique et plus...
Voilà, on a partage un petit peu entre les deux, entre division ethnographique.
Les deux restent tout à fait valables.
Les deux coexistent, en fait.
Oui,
moi,
oui.
J'ai vu ça,
c'est mais je veux dire, Zelensky et avant lui, Yulia Tymoshenko, qui est russe, etc., manifestent un phénomène de ralliement à l'Ukraine et d'incorporation donc, de ces minorités à un projet ukrainien. Et c'est important pour l'avenir de l'Ukraine. Ces minorités ne vont pas disparaître et qu'il est très important que, contrairement à ce qui s'est passé en 1917, elles soutiennent le projet ukrainien.
Oui. Non, mais on voit cette coexistence, ces deux conceptions.
Donc vous parliez d'hétérotélie, en fait, Poutine a tout raté. Il a perdu cette guerre. Il l'a perdue sur le plan militaire en ne la gagnant pas dans les premiers jours. C'est-à-dire 4 ans d'acharnement, c'est tragique pour les Russes.
On a dépassé la durée de la Seconde Guerre mondiale.
Hein. Il l'a perdu sur le plan moral, avec les crimes de guerre qui ont été commis tout de suite, qui sont parfaitement documentés.
Et qui ne sont pas de la propagande occidentale.
C'est non, non, on vit à une époque où c'est très difficile de commettre des crimes de guerre tranquillement. Et je pense qu'il a causé un tort à la Russie qui est...
Qu'on ne mesure pas encore, mais...
Qu'on a du mal à mesurer, oui.
Ouais. On n'est pas encore en stade d'effondrement de la Russie.
Malheureusement, il a aussi causé beaucoup de tort à l'Ukraine.
Ben oui, malheureusement, en tout cas, c'est le... Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, à peu près, donc... Je vais tout d'abord faire mes petites chroniques rapides, mes petits rappels, et après nous reviendrons peut-être, s'il nous reste que quelques minutes, sur un petit point auquel je pensais. Alors, concernant un petit peu mes petites chroniques, bon, mais d'abord je rappelle les références de votre ouvrage, mon cher Yaroslav. Donc, Yaroslav Lebedinsky, sur l'Ukraine, conférence et intervention 1999-2025, collection présence ukrainienne chez... L'Armatan, voilà, donc vraiment un ouvrage que je conseille à un plus grand public, qui est vraiment très complet. Hein. Bon, on n'a pas abordé tous les points qui peuvent y trouver, mais on verra aussi, voilà, pas mal de développements sur les symboles de l'histoire ukrainienne, sur des questions historiographiques, sur la Crimée, sur les couches qui ont présidé à l'identité ukrainienne bien avant les Slaves. Enfin, bon, voilà. le phénomène Cosaque, etc., etc. Voilà. Autre chose, mais, deux ouvrages que je voudrais signaler. Alors, tout d'abord, pour les anglo, pour ceux qui lisent l'anglais, on parlait tout à l'heure du nationalisme, du jeune nationalisme ukrainien. Il se trouve qu'un des jeunes idéologues ukrainiens, qui est un disciple de Mykola Kravchenko, qui était le numéro 2 du régiment Azov, qui a été tué en mars 2022, donc il s'appelle Oleksiy Reins, nom de code indicatif consul, vient de faire paraître une version anglaise d'un de ses petits ouvrages manifestes sur ce qu'il veut présenter sur la nouvelle vague du nationalisme ukrainien. Donc un ouvrage qui s'intitule en anglais « Consul on Ideology ». Modern Ukrainian Nationalism, donc qu'on peut trouver sur Amazon.fr. Alors, c'est vraiment un ouvrage pour ceux qui en savoir plus sur l'image, en tout cas, bon, les thèmes, la manière dont les jeunes nationalistes veulent se présenter, parce que nous avons effectivement une forte influence de ce nationalisme au sein d'unités militaires, et pas des moindres, parmi les meilleures unités de l'armée de la guerre nationale ukrainienne, mais également avec la jeune organisation nationaliste Centuria, fait un gros travail métapolitique et d'influence pour une partie de la jeunesse. Donc voilà, on verra pas mal de thématiques abordées sur l'éthique, sur l'esthétique, sur la pratique, sur la symbolique de cette jeune génération nationaliste qui à la fois s'appuie sur des figures classiques, sur notamment Mykola Tsiolkovski, qui avait le concept de nationocratie. Bandera est moins présente de cette manière, Donsov en partie. Donc voilà, on voit à la fois des classiques du nationalisme ukrainien, de l'organisation nationaliste, et puis des nouveautés, et aussi bon, des relations qui s'établissent avec l'Europe centrale occidentale. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà, les auditeurs intéressés pourront se le procurer sur Amazon.fr pour la somme modique de 13,56 €. Donc Oleksiy Reins Consul, il y aura les références sur le site de la radio. Consul on Ideology, Modern Ukrainian Nationalism. Sur un plan un petit peu différent, dans un registre un petit peu différent, celui de la pensée traditionnelle et pérennialiste, je voudrais signaler la réédition de deux maîtres ouvrages de René Guénon, du français René Guénon, donc La crise du monde moderne qui est suivie de Le règne de la quantité et Les signes des temps. Donc ces deux essais majeurs de ce grand représentant donc de la pensée traditionnaliste avec Jules Evola, donc qui dans ses ouvrages justement a de manière assez curieuse, assez étonnante, donc préfigurer différents phénomènes qui traversent aujourd'hui nos sociétés occidentales. Et l'ouvrage, cette double réédition a le mérite d'être préfacée par notre distingué ex-confrère Rémi Soulier, qui était aussi un confrère sur Radio Courtoisie et qui anime un livre de la philosophie et qui éclaire avec bon, sa verve et sa pertinence habituelle donc ces deux textes majeurs de la pensée traditionnaliste. Donc René Guénon, La crise du monde moderne, suivi de Le règne de la quantité et Les signes des temps, donc là qui est édité par les éditions LIF et qui succède aux éditions Pardès. Voilà, donc tout cela sera mis en ligne sur notre site. Je voudrais aussi signaler comme événement majeur dans les semaines qui vont suivre, ce sera en fait le samedi 11 avril 2026, le 13e colloque annuel de l'Institut Iliade. Donc, qui sera cette année consacré aux libertés, donc un thème quand même qui est plus que d'actualité par les temps que nous vivons, avec de très nombreux intervenants français et européens comme d'habitude. La présence également de très nombreux stands, à la fois de livres, mais également d'objets d'art, etc., de produits de notre terroir, de notre patrimoine. Donc ce 13e colloque annuel de l'Institut Iliade se tiendra, comme d'habitude d'ailleurs, à la Maison de la Chimie, ce lieu prestigieux, qui nous enchante, au 28 rue Saint-Dominique, donc dans le 7e arrondissement, entre 10h et 18h30, donc le samedi, je rappelle, 11 avril 2026. Et puis les auditeurs intéressés auront la possibilité d'y croiser peut-être leur serviteur. Alors, il nous reste quelques minutes. Mon cher Yaroslav, nous allons, donc, il nous reste 5 minutes. Je voudrais poser une petite question. On voit actuellement Viktor Orban, qui a quand même pas mal de disciples, on va dire un petit peu de notre mouvance de manière générale. Bon, on le voit quand même instrumentalisé sur un mode un petit peu stratégie de l'attention. La question ukrainienne dans sa campagne électorale, on rappelle que les élections auront lieu en Hongrie le 12 avril, le dimanche 12 avril. Bon, il y a la question de la minorité ukrainienne qui est présente dans la région de Transcarpathie, une région qui a longtemps fait partie d'ailleurs de la Hongrie historique. Quel est votre sentiment sur cette rhétorique un petit peu agressive, on va dire, une rhétorique quand même assez virulente hein, concernant l'Ukraine, le problème de l'oléoduc, de la fourniture de pétrole russe?
Mais globalement, l'attitude de Viktor Orban est incompréhensible. Elle est en rupture avec toute la tradition hongroise, cette tradition de lutte notamment contre l'impérialisme russe. 1849, 1956, Orban lui-même s'est construit là-dessus. C'était un dissident anticommuniste, c'était un authentique nationaliste hongrois. On l'a vu opérer un virage sur l'aile dans les années 2000 et on a beaucoup de mal à le comprendre. Alors toutes les hypothèses sont permises, je n'en ferai pas ici, mais c'est quelque chose qui...
Oui, on parle de compromat, voilà, oui, oui. Avec
c'est
le milieu...
C'est quelque chose qui dépasse largement le problème de la minorité hongroise en Transcarpathie, oui. Problème qui n'a pas été géré peut-être avec une grande subtilité par le pouvoir ukrainien à l'époque du président Porochenko.
Ouais, mais trop souvent le cas parfois,
qui pourrait être réglé tant il est évident que les questions linguistiques en Ukraine sont liées à l'ancienne prédominance du russe, oui. Et pas au fait qu'on parle hongrois, roumain ou polonais dans tel ou tel village d'Ukraine.
Oui, on faisait allusion à la loi d'utilisation de l'ukrainien dans les établissements d'enseignement, notamment. Voilà,
justement, on voit bien d'ailleurs comment, voilà. Au-delà de ce thème de la Transcarpathie, le gouvernement d'Orban saute sur toutes les occasions pour alimenter son acidité vis-à-vis de l'Ukraine et développer ce pouvoir de nuisance qui est aujourd'hui très gênant dans le cadre européen.
Voilà, bon, il espère en tout cas en tirer des dividendes électoraux. Bon, ça, nous serons fixés.
Je pense qu'on saura un jour pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé de ce qui aurait dû être.
Voilà, on ne sait pas trop si éventuellement son challenger, si je peux employer ce terme, bon, qui a des chances, mais en tout cas, donc, qui est donné favori dans les sondages, Peter Magyar, hein, donc, bon, reviendra peut-être à de meilleurs sentiments. En tout cas, ne pas faire bande à part et jouer au faux frère, comme moi j'ai tendance un petit peu...
Oui, on en est réduit à espérer la victoire de M. Modior.
Voilà, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il en est concernant.
Un nouveau changement de politique, mais bon, on verra.
Des projets éditoriaux pour terminer?
Alors, je travaille actuellement sur un livre qui racontera l'invasion de la City, donc de l'Ukraine actuelle, par les Perses de Darius en 513 avant Jésus-Christ.
Ah, ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Un film kazakh qui était consacré à la reine Tomiris.
Oui, oui, bien sûr.
Dans lequel, bien sûr, les sites ont des visages tout à fait...
Un film assez réjouissant. Et, et donc, c'est cette curieuse affaire de l'expédition perse dans les steppes ukrainiennes qui a été la seule vraie défaite du règne de Darius.
Oui, d'accord. Et ça devrait paraître chez Illustoria, non, c'est ça?
Chez Lem Edit.
Chez Lem Edit, voilà. Donc c'est
mon éditeur de Chamalière.
D'accord. Bien. Bon, mais écoutez... je crois que bientôt cette émission va se conclure. Un sentiment donc sur le... il est difficile de faire des pronostics. Hein. Moi, j'entends souvent dire autour de moi, l'Ukraine a déjà perdu. Enfin, en tout cas, dans une certaine mouvance dont je suis issu, elle a déjà perdu cette guerre. On aurait, en fin de compte, en tirer des conclusions.
Vous savez,
quel est votre sentiment?
C'est le début de l'hymne national. Hein. C'est l'Ukraine n'a pas encore péri. Donc oui. Nous avons l'habitude de ce genre de ce qu'on appelle aujourd'hui résilience. Non, je ne fais aucun pronostic.
C'est difficile, mais ce n'est pas bon signe.
J'exclus totalement un écroulement de l'Ukraine qui conduirait à une pleine victoire de la Russie. Et j'espère symétriquement des failles dans la puissance russe qui conduiraient à une vraie victoire de l'Ukraine, sans laquelle l'Ukraine ne sera jamais tranquille.
C'est ça le problème, c'est que l'Ukraine devra s'habituer tant que la Russie reste constituée en tant qu'empire et qu'il n'a pas revu ses représentations concernant, justement, on ne sait pas à quel prix ça pourrait se faire, mais elle restera en tout cas une nuisance, pour ne pas dire une menace permanente. Avec l'idée de... Voilà,
je pense qu'on l'a bien compris et que les Occidentaux les moins informés aujourd'hui ont admis cette réalité.
Voilà, et l'Ukraine n'est pas d'ailleurs la seule concernée dans cet espace.
C'est ce que vient de rappeler un ministre polonais.
Voilà, donc écoutez, j'encourage tous nos auditeurs à se plonger dans votre ouvrage qui est vraiment une synthèse de ce qu'il convient de savoir sur l'identité, sur l'histoire de ce pays. qui malheureusement aujourd'hui continue à faire l'actualité, même si elle est oblitérée par une guerre qui aurait dû être évitée. C'était Pascal Assal aujourd'hui, donc la direction de ce Libre Journal. Merci mon cher Yaroslav de m'avoir fait une fois de plus le plaisir de votre présence. Et bien bon, toujours, toute occasion est bonne pour vous faire revenir. Et nous attendons avec impatience de pouvoir parler, de pouvoir nous replonger dans un passé plus lointain de notre chère Ukraine, donc avec les sites qui infligent une défaite à l'Empire perse. C'était Pascal Assal aujourd'hui, la direction de cette émission, qui vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures métapolitiques et littéraires sur Radio Courtoisie, naturellement. À très bientôt, au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 18 mars 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 21 mars, de midi à 13h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.